Midi 13h, Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Peur FM.
Et Dessus de table, c'est l'émission qui met les pieds dans le plat. Bonjour, bienvenue, bon week-end à tous, ravi de vous retrouver. Bonjour Manu.
Bonjour Philippe, comment ça va?
Ça va, je vous appelle Manu, mais en fait vous êtes Manuel Mariani.
C'est ça.
Voilà, critique.
En personne.
Gastronomique. Comment ça va Manu? Parce que là je vous trouve une petite mine hein, aujourd'hui.
Oui, oui, oui.
Hein, vous êtes venu pour votre public qui vous aime.
Je traîne une petite bronchite.
Je suis là de bronchite. Tiens, on va parler de votre grand-mère aujourd'hui.
Oh, ben, laissez ma grand-mère tranquille.
C'est votre grand-mère corse.
On va parler des grand-mères, puisqu'on accueille Kedda Black pour son livre. Figurez-vous que j'ai oublié le titre. Voilà.
Je cuisine pour mes petits enfants.
Je cuisine pour mes petits enfants. J'ai eu du mal à me le mettre dans la tête, le titre.
Tenez, tiens, je vous le dis.
Non, mais ça va. J'ai ça sous les yeux. Bon. J'étais pas au bon endroit. Voilà, donc Kedda Black qui est auteur, journaliste culinaire.
C'est ça. Hein, bonjour, je suis pas grand-mère pour autant, mais bah, bonjour quand même.
Ça viendra peut-être. Ah oui, alors d'ailleurs, pourquoi on fait un livre de cuisine destiné, enfin, la cuisine pour les petits-enfants quand on n'est pas grand-mère?
Peut-être que le fait d'avoir des enfants me donne un petit peu de légitimité sur le fait de savoir un peu ce que les enfants... aujourd'hui, on a envie de manger, c'est peut-être ça. Et puis c'est peut-être une question de comment s'établit la transmission que ma grand-mère à moi faisait très bien à manger, mais m'a pas forcément appris des choses que ma mère faisait aussi très bien à manger, mais un peu différemment, enfin moins.
Parce que d'ailleurs, vous avez beaucoup bourlingué niveau pays, hein.
Oui, alors récemment moins, mais plus jeune, oui, pas mal. Que ce soit dans l'enfance, enfin, mais
mais dans quel pays?
J'ai habité un petit peu au Maroc avant, quand j'étais petite. Mes parents ont vécu en Zambie où je suis née.
Vous êtes née en Zambie, mais c'est ça. Vous êtes française, mais née en Zambie.
Oui, oui. Donc on en est parti quand j'avais un an, donc j'ai pas de souvenir moi de cette période. Mais je pense que c'est une période qui a quand même pas mal influencé mes parents et dont il y a quelque chose qui reste. Et voilà. Et puis on est une famille qui a des origines un peu
atypiques,
un peu dispersées, oui, on va dire.
Alors, quelles sont justement un petit peu ses origines et comment ça dessine un petit peu votre paysage culinaire?
Je pense que la figure principale, c'est ma grand-mère maternelle, qui est une immigrée espagnole, qui est venue en France enfant, avec ses sœurs, ses cinq sœurs, ses parents, voilà. Et donc, elle, c'était quand même un peu la cuisinière de la famille.
Enfin, la maman espagnole.
Voilà, c'est ça.
Donc, mamita.
Mamacita.
Qui faisait des grands plats, enfin qui faisait tout en fait, qui cuisinait très bien, c'était son truc.
Des plats de partage beaucoup, j'imagine.
Beaucoup, ouais. Qui faisait une, elle est de Valencia, donc elle.
Ah bah alors là, évidemment.
Une très belle,
la albufera.
Voilà.
La paella.
Une très belle paella. Elle faisait aussi un très bon couscous en fait. Et puis aimait si elle se lançait dans les paupiettes ou je ne sais quoi. Enfin, elle avait aussi un côté, elle voulait. S'intégrer, être monté dans la société, tout ça. Donc elle aimait bien aussi faire des choses qui pour elle, elle collectionnait les recettes. Elle avait son classeur avec les choses découpées dans les magazines, mais elle essayait de faire des choses qu'elle considérait comme...
J'ai un peu la monotonie. La monotonie.
Comme plus élégante, mais...
Il n'y a pas de paupiettes hein, dans voilà. Votre livre.
Non, il n'y a pas de paupiettes, peut-être.
Ça se perd, les paupiettes, hein, franchement.
C'est dommage, ouais. Oui. Ouais. Ben, c'est vrai que c'est un livre dont l'idée était... plutôt de proposer des recettes finalement assez simples, assez rapides pour peut-être une génération de grands-parents qui font pas que la cuisine, qui ont envie de faire d'autres choses et qui vont pas forcément passer plein de temps en cuisine. Et puis aussi en se disant que les grands-parents qui font tous ces grands-parents.
Ils sont actifs maintenant, les grands-parents, ils font plein de choses, donc ils sont plus forcément, ils passent plus leur temps dans leur cuisine à mitonner des gâteaux et des plats pour les petits-enfants, oui.
Ils emmènent leurs petits-enfants, je sais pas, voir des expos au cinéma, etc. Mais puis peut-être que ces gros plats, ils existent dans les familles et qu'il n'y a pas besoin de livre pour ça, justement.
Mais il y a plusieurs entrées, moi, je trouve, dans le livre, parce que c'est aussi bien un livre pour les jeunes grands-parents pour leur suggérer des recettes pour leurs petits-enfants, mais ça peut être aussi un truc pour cuisiner les grands-parents et les petits-enfants, cuisiner ensemble, parce que les recettes sont simples et sont expliquées de façon assez... assez didactique. Donc on peut même j'imagine cuisiner avec les enfants et à quatre mains.
C'était tout à fait ça l'idée. C'était que les grands-parents aient une sorte de guide où ils se disent oulala, je reçois mes petits enfants, qu'est-ce que je vais pouvoir faire, et que ce soit simple de trouver une petite quelque chose à préparer. Et puis il y a aussi des recettes qui sont peut-être toutes peuvent être faites avec les petits enfants.
Ouais. Mmh.
Alors là, pardon.
Ouais, mais Manu, c'est comme si c'était les enfants qui décidaient de ce qu'ils allaient manger. Moi, de mon temps, madame, on mangeait ce qu'il y avait.
Et si on n'aimait pas ça, on allait se coucher.
Oui, mais si on n'aimait pas ça, on n'avait rien d'autre. Mais en tout cas, j'ai pas un souvenir.
Vous avez été élevé à la dure, Philippe. Hein. Non, qu'on en parle un
Manu,
peu.
Ce que je voulais dire, c'est que j'ai pas un souvenir qu'il y avait une cuisine spécifiquement pour les enfants. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde mangeait la même chose. On se demandait pas qu'est-ce que les enfants vont bien pouvoir manger. Quoi. Il y avait un plat qui était fait, mais voilà, c'était pour tout le monde.
C'est oui, vrai, le menu enfant avec les nuggets et les spaghettis sauce tomate, ça n'existait pas.
Les nuggets, hein. On n'a pas connu, non. Et heureusement.
Non, bah oui, d'ailleurs.
Sauf les nuggets maison.
Si on fait des nuggets maison, voilà, c'est très bon.
Dans votre livre,
il y a quelque chose
y a quelque chose qui ressemble à des nuggets.
Des poissons panés maison, il y a des choses comme ça.
Fish and chip, voilà.
On va dire que c'est un petit équilibre entre. Parce que la soupe aux poireaux, je ne sais pas si c'est forcément réclamé au cri par.
Poire aux pommes de terre.
Par les enfants, enfin, si, pourquoi
bien
pas.
Bien mouliné, ça passe, non?
Oh, oui, ça passe. Hein,
avec un entonnoir, Philippe, on vous le donne avec un entonnoir.
Aujourd'hui, on met du curry dedans pour que les enfants le mangent. Voilà.
Pour que ça passe.
Oh, du curry, vaut mieux une bonne crème fermière.
Moi, je préfère aussi.
Bah, voilà. Il y a aussi pas mal de recettes dans votre livre. Où on met un petit peu des petites. Il y a des petites feintes pour faire manger des légumes aux enfants. On cache un peu le brocoli dans le gratin. Enfin, il y a des.
Oui, c'est ça, il y a des petites feintes, parce que ça marche, ça peut marcher. Après, il y a des. Quoi dire sur les légumes? Bah oui, les blettes ou les petits légumes cachés dans les coquillettes.
Vous avez farci les coquillettes, non, c'est ça?
Oui, une à une, avec une pince à épiler.
Non, mais par exemple, si on prend l'idée de la tarte soleil.
Oui.
Avec des épinards, c'est génial.
Oui. Vous voyez,
ça, c'est une super idée.
C'est ça.
C'est joli, c'est bon et c'est super sympa.
C'est ça, il y a pas mal d'idées. Alors là, pour le coup, j'en suis pas la seule responsable. C'est aussi la styliste Sonia Lucano qui a eu plein de jolies idées, je trouve, pour mettre en scène un peu les choses avec des petites choses simples qui font que c'est charmant, c'est joli et puis ça donne envie.
Mais est-ce que les grands-mères, elles cuisinent comme les mères ou alors elles ont vraiment une cuisine à part?
Alors aujourd'hui, en ce qui me concerne, oui, ma mère ne cuisinait pas comme ma grand-mère. Bah, les parents sont dans la vie active, ont autre chose à faire, alors que les grands-parents, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que les grands-parents d'aujourd'hui, ça se joue peut-être un petit peu différemment, mais... Mais les grands-mères, les grands-pères ont peut-être un petit peu plus de temps.
Ouais. Oui, est-ce que les papys se sont mis à la cuisine d'ailleurs? Parce qu'avant, c'était plutôt les mamies quand même. Hein.
Bah, à mon époque, c'est sûr, c'est même certain, mais j'espère que c'est le cas. Et puis j'espère que ce genre de livre ou d'autres...
Les papys se faisaient même virer de la cuisine s'ils avaient le malheur d'y approcher, d'y rentrer pendant la préparation des gâteaux.
Quand c'était pas le moment, en tout cas.
Oui, mon grand-père avait juste le droit d'aller chercher les patates dans la cave ou des choses comme ça. Ouais.
Moi, ma grand-mère, elle faisait tout. C'est-à-dire qu'elle faisait tout elle-même. Et elle savait tout faire. En tout cas, moi, j'avais ce sentiment que elle achetait des produits de base, mais qu'elle savait tout confectionner.
Oui, les pâtes.
Elle savait faire les pâtes, voilà. Elle savait tout faire. Je ne sais pas où elle avait appris, mais il y avait cette idée que elle faisait tout et elle faisait tout très bien.
Bah, la plupart du temps, c'est de la transmission orale. Hein. C'est surtout dans certains pays où les femmes n'ont pas forcément eu reçu d'éducation parce que les femmes n'allaient pas forcément à l'école, etc. Et du coup, il y a une transmission orale qui est super importante.
C'est très clairement ça, oui. Et puis, je crois que c'est la génération d'après où sont arrivés dans les supermarchés des produits qui sont censés aider, des aides culinaires qui sont censées permettre d'aller plus vite, etc. Enfin, c'est arrivé... Voilà, et puis peut-être que maintenant, il y a une espèce de désir de retourner au fait de cuisiner, un peu tout,
de mettre les mains dans la pâte,
des ouais. produits mmh. bruts. Alors peut-être pas tout savoir absolument tout mmh. faire, mais en tout cas, de retrouver un point où on peut quand même partir du produit et ne pas avoir trop recours à des choses toutes prêtes.
Mmh. Mais quand même, les papis et les mamies sont drôlement connectés maintenant, quand même. Hein. Ils sont.
Bah oui, alors c'est vrai que là, moi je suis un peu dans un espace entre les deux, parce que comme je ne suis pas encore grand-mère et que je n'ai plus mes grands-parents, mais je pense que, en effet, cette génération a sûrement recours à.
Vous croyez qu'ils regardent les recettes sur leur portable, sur téléphone portable ?
Alors, on en parlait avant, est-ce que le livre reste un objet important pour nos générations ? Oui, je crois quand même. Mmh.
Votre livre, quelque part, c'est aussi une base, parce qu'on, en fait, on peut, on, comment dire, ça donne, c'est comme c'est assez varié, c'est pas les, parce que j'avais un peu peur, moi, en commençant à lire le livre, je cuisine pour mes petits-enfants, c'est d'avoir toutes les recettes vues et revues, genre, les coquillettes, beurre et fromage, les endives au jambon, enfin, tous les trucs hyper classiques, mais non, vous avez comme dirait Philippe, ouais. vous avez repimpé un peu tout ça.
Oui, et puis il y avait l'idée d'être un tout petit peu démago aussi, comme on disait tout à l'heure.
C'est repimper les coquillettes.
Ouais. C'est ça, repimper la coquillette. Et du coup, ça donne envie de faire comme vous, c'est-à-dire de partir d'une recette et puis de la traficoter un peu. C'est-à-dire que c'est pas, on n'est pas obligé de se baser sur les recettes.
Ça, c'est toujours ce que ouais. j'essaye de faire en fait dans mes livres. C'est toujours, je pense qu'un livre de recettes doit vraiment être un point de départ. Pour se dire, ah, en fait, c'est simple, et puis je peux donner ma propre touche. Enfin, c'est jamais fait. Enfin, on peut aussi suivre la recette à la lettre si c'est ça qui nous met en confiance et qu'on a envie de faire. Mais c'est toujours ça. C'est se dire, moi aussi, je peux ajouter ma touche, mettre tel truc et tout. C'est pour, au contraire, se libérer et faire ce dont on a envie.
Bon. Alors, vous êtes maman, vous nous l'avez dit. Donc, oui. est-ce que vos enfants cuisinent?
Oui, ils cuisinent. Mmh. Bah, ils sont maintenant pas si petits, hein. Ce sont des adolescents, donc, maintenant, il leur arrive de prendre en charge.
Même adolescent, c'est pas évident. Hein.
Des repas,
qui cuisinent tous. Hein.
Bah, on les oblige, en tout cas pendant les vacances, à chacun leur tour, et ils le font de bonne grâce, avec plaisir. Ils organisent parfois des petits concours. Voilà, et puis ils sont pas tous, il y en a des plus enthousiastes que d'autres par rapport à
la cuisine. C'est les Bocuse d'or de Normandie, c'est
ouais,
ça.
Ou Top Chef.
Top Chef, c'est ça.
Vous parlez de votre grand-mère là, qui est venue de Valence tout à l'heure. Moi, j'ai un souvenir, voyez, de ma grand-mère. Et je pense qu'elle cuisinait mieux que ma mère encore. J'ai quand même l'impression que les grand-mères, elles cuisinent mieux que les mères. C'est elles qui sont vraiment au top des souvenirs et des recettes.
Bah, c'est vrai qu'il y a des grands plats. Enfin, c'est peut-être plus spectaculaire, plus. Et puis, c'est peut-être plus vraiment leur affaire.
Tu sais, moi, j'ai l'impression que tout était bon.
Ouais,
et
ouais,
que
ouais,
les grands-mères, elles rataient rien. Vous voyez, c'était même quelque chose de simple, a priori, c'était très, très bon.
Chez moi aussi, c'était toujours bon, mais ma mère cuisinait aussi très bien. Donc je ne vais pas commencer à dire, surtout si elle m'écoute, je vais pas dire
que c'était ma mère. Pas de problème dans la famille Black, voilà.
Surtout que, non, ma mère cuisinait très bien, mais différemment. Elle cuisinait peut-être des choses moins énormes. Elle cuisinait moins déjà,
c'était
des repas moins énormes, parce que ça, je ne sais pas si c'est commun aux grand-mères, mais c'était quand même beaucoup la quantité, et puis vous n'allez surtout pas me laisser ça, et puis il y avait une entrée, un plat, du fromage, et tout, bon voilà.
Vous reprendrez bien une huitième assiette de paella, monsieur Robichon.
Là, c'est ça. Mais ma mère cuisine très bien aussi. Enfin, cuisine toujours très bien.
Bon. Elle cuisine à l'espagnol un petit peu, maman, ou pas?
Pas trop. Elle est plus. Je crois que la période en Zambie était assez déterminante parce que, déjà, sa mère lui a pas transmis grand chose, étonnamment, alors que c'était une très bonne cuisinière. Donc, elle s'est mise à cuisiner avec des livres. Donc, ça, c'est peut-être aussi un héritage que j'ai reçu. Et puis, quand ils ont habité au fin fond de la brousse, il n'y avait pas beaucoup, il n'y avait pas très facilement accès à la viande. Et puis, ils avaient un jardin, en fait, un potager. Mon père était un très bon.
Oui, dans la brousse, c'est vous la viande. Hein.
Donc, voilà. Donc beaucoup de légumes, une cuisine très très basée sur des produits et pas cultivés. Et ça, je pense que ça, c'était très ça c'est resté. Donc ma mère a finalement plus été influencée par ça que par la génération supermarché et la purée mousseline, etc. Donc c'est peut-être aussi pour ça que.
Mais alors la Zambie, ça m'intéresse parce que même si vous disiez que vous étiez très jeune, votre maman a dû vous raconter, oui. Vous avez dû avoir des petites histoires. Qu'est-ce qu'on mange en Zambie?
Eh ben, ça, une variété de légumes impressionnante, en fait, parce que tout poussait à condition de pouvoir arroser, y compris des aubergines, mais aussi des asperges. Mes parents me racontent toujours qu'ils avaient planté des asperges, que les gens sur place étaient étonnés parce que je crois que c'est un cycle assez long quand on plante une asperge. Il faut attendre 2 ans avoir les premières asperges.
Jusqu'à 3 ans, même, je crois, pour les vertes. Les vertes, c'est 3 ans, oui.
Ça semblait étrange, mais bon, ils l'ont fait. Enfin, voilà, donc une grande variété de produits comme ça. Bon, après, sur... on parlait de kiri, je crois, justement. Fromage, c'était plutôt...
En Zambie, c'est plutôt kirikou, là, non? C'est ça.
Non, la vache kiri, ou l'équivalent de ce fromage.
L'équivalent, hein. Comme ça. Bon, pas de viande, en tout cas, dans cette région-là, parce que c'était... un petit peu compliqué. Bon, voilà. Après, moi, j'étais encore au sein de ma mère.
Hein, oui.
On fera pas un cours sur la cuisine zambienne, mais il y a peut-être quelqu'un qui...
C'est de la curiosité.
Des mangues, voilà, mes premières compotes, c'était pas la pomme, c'était la mangue.
Moi, c'est pas mal non plus. Elles doivent être bonnes, les mangues, en Zambie, je pense. Hein.
Et puis, oui, ma mère me raconte toujours qu'elle avait un livre qui était un livre en anglais qui s'appelait The Pauper's Cookbook, donc un livre de cuisine censé pour les pauvres, hein, censé être proposer de la cuisine faite à partir de produits très peu chers.
La cuisine économique.
Sauf que il y avait beaucoup de patates, de choses comme ça, et ça, c'est justement, c'est pas tellement de patates, il y avait d'autres types de légumes, donc il fallait adapter.
Il y a beaucoup de maïs en Zambie.
Alors ça, je sais pas s'il si y en avait là où ils étaient, ce genre de culture, je sais pas.
Manu, vous allez nous proposer une émission sur la cuisine zambienne.
Absolument.
Voilà,
absolument.
Votre défi pour 2022.
On va manger du steak de zébu.
Allez, on parle de la cuisine des grands-mères. Dites-nous, tiens, et rejoignez-nous au 01 53 48 3000, 01 53 48 3000. Racontez-nous quels souvenirs vous gardez de la cuisine de votre grand-mère, des plats, des souvenirs, des saveurs. Et puis dites-nous si vous qui nous écoutez, vous êtes grand-mère, si vous cuisinez particulièrement pour vos petits-enfants ou vous leur faites manger comme tout le monde. 01 53 48 3000.
Dessus de table revient dans un instant. Midi 13h, Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Peur FM.
Voilà, et on parle de la cuisine des grands-parents, mais plus précisément des grands-mères ce matin, Manu, avec notre invité.
Absolument, avec Kada Black, qui est journaliste et auteur culinaire, et qui vient nous présenter son livre qui donne envie de cuisiner avec ses petits-enfants, ou pas d'ailleurs. Bah, on va cuisiner. Ce qui donne envie de cuisiner, ça c'est sûr. Mais à quatre mains avec les petits-enfants ou sans les petits-enfants. Hein. Parce que c'est vrai qu'il y a des enfants, je pense qu'ils sont peut-être pas intéressés par la cuisine. Ils aiment bien mettre les mains dans la farine quand même.
Oui,
hein. Ça, c'est rigolo,
je pense
qu'il
vaut mieux les prendre un par un parce que nombreux, c'est vite la pagaille.
On sent le vécu, là, c'est bizarre.
C'est ça.
Et nos grands-mères qui transforment tous les repas en festin, d'ailleurs, même les plus simples. Dans votre livre, on prend une recette toute simple, par exemple, le simplissime riz au lait à la vanille.
Oui.
Voilà, c'est magnifique.
C'est basique.
Oui, c'est un basique, mais bien exécuté. Le riz au lait, c'est magnifique.
Oui, bah, il faut rappeler de temps en temps que ça existe et que ça vaut le coup de le faire.
Soi-même.
Trois ingrédients, quatre, si on rajoute de la vanille, voilà, c'est génial.
Bah, le riz au lait, il a été un peu réhabilité par la mode de la bistronomie ces dernières années. Parce que c'est vrai qu'on n'en voyait plus du tout dans les restaurants, les riz au lait.
C'est revenu avec Corne de Bord et compagnie. Oui.
Exactement.
La pomme au four aussi.
La pomme au four.
Ça marche, franchement.
On oublie que ça existe alors que, voilà, on est totalement démago pour le coup dans le livre parce qu'on y fourre un carambar, mais ce qui n'est pas... C'est pas obligatoire si
oui, il y a une sauce au carambar. Ouais. Bon. Mais c'est une bonne idée, ça remplace le caramel finalement.
Oui, bah oui, ça montre que.
Oui, puisque le carambar, c'est ni plus ni moins que du caramel,
que
hein,
du
justement.
Du caramel, ouais. C'est ça, ça montre que un peu.
Du sucre et du sucre.
Et du fruit.
Oui, c'est ça. Oui, les carambars au caramel et au fruit aussi.
Je voulais dire la pomme.
Ah, pardon.
La pomme qui le reçoit.
D'accord. Quelles sont dans les recettes de votre livre, est-ce qu'il y a des hits, des incontournables que les enfants réclament spontanément?
Les gratins de pâtes.
Alors c'est oui, non mais justement, ouais. Ça c'est un truc. Les enfants avec les gratins, c'est incroyable.
Bah oui, ça marche toujours assez bien en fait, le fait de c'est pas le côté fromage gratiné, c'est quand même assez efficace.
Alors vous appelez ça le VBG.
Oui, bon, pourquoi pas alors.
Le vrai bon gratin.
C'est ça. Bon, bah, c'est une petite coquetterie de titre, mais après, ça, c'est un plat qui se décline, comme on disait tout à l'heure. On peut y glisser des légumes ou pas.
Oui, c'est
ça.
Voilà.
Dans la version la plus simple et classique, moi j'aime bien on peut mettre un peu de poitrine fumée ou pas, et puis j'aime bien mettre des échalotes parce que ça tranche un petit peu, parce qu'on a quand même un côté assez c'est quand même un petit peu grassouillet, etc. Mais l'échalote donne un petit côté sucré, un tout petit peu acidulé qui est pas mal et qui, il me semble, fonctionne avec tout le monde.
Mais quel est le secret d'un gratin réussi? C'est quoi? C'est la béchamel? C'est la température?
Il y a la béchamel dans votre livre. Hein. Ouais, il y a la version béchamel.
La béchamel n'est pas obligatoire, mais elle est quand même assez efficace. Après, le secret d'un gratin, c'est quand même l'équilibre entre le moelleux et le pas détrempé. Donc, la béchamel, ça permet d'atteindre ce point-là, parce que c'est, voilà, si on l'a fait, c'est quand même une crème. Donc, ça donne le moelleux nécessaire sans que ce soit sec. Après, on peut toujours, si on veut pas utiliser de béchamel, on peut toujours mettre un petit peu de bouillon, mouiller un peu avec un bouillon. Donc, on a à la fois le goût et puis le côté mouillé. Et puis, le dessus, il y a évidemment le fromage, mais on peut aussi mettre un petit peu d'une chapelure, mélangée ou non, avec des herbes hachées pour avoir un côté croustillant dessus
Alors, puisqu'on parlait de coquillettes et de bouillon, il y a un truc qui est super à la mode, c'est les risottos de coquillettes. Là,
alors là, c'est la version qu'on a dans votre livre.
Mmh. Oui, voilà. Bon, alors, on cuit comme un risotto les coquillettes dans le bouillon, donc qui s'imbibent du bouillon. Donc, ça donne un petit côté gustativement plus intéressant, ce qui est pas mal parce que souvent les enfants aiment bien.
Ouais, c'est plus gourmand, ça nourrit bien la pasta.
Voilà. il aime bien le format coquillette parce que c'est. Et puis, mais bon, qui peut être pour des adultes un peu plus barbant, mais finalement avec le bouillon, voilà, ça donne un petit truc.
Ouais, mais avec des langues d'oiseau, c'est sympa aussi de faire un risotto de pâte avec des langues d'oiseau, c'est sympa.
Super, les langues d'oiseau, c'est aussi. Ça cuit vite, c'est très bon, ça marche très bien. Mmh. Mmh.
Ouais, mais ça, les bons risottos de pâtes. Alors, à ne pas confondre avec les one pot pasta, hein, qui sont des trucs immondes, là, dans lequel on met tout, puis on attend que ça cuise.
Ouais, bon, ça dépend un peu ce qu'on met, mais c'est vrai que tant qu'à faire, autant faire cuire des pâtes et puis mettre une sauce. Il y a aussi ça, il y a aussi une sauce aux boulettes, je crois, dans le livre. Yeah.
Ah oui, la fameuse boulette tomate.
Oui, ça, voilà, c'est
une valeur sûre.
Oui, une valeur sûre, et puis il me semble pour tout le monde, là, pour le coup, je ne connais pas d'adulte qui
râlerait devant les parents aussi, moi,
plat de spaghettis aux boulettes. Bah,
vous me faites des boulettes de viande à la sauce tomate.
Bah, ça, les boulettes, c'est un peu l'emblème de la cuisine qui réunit tout le monde, que tout le monde peut faire ensemble, où il faut convoquer chacun pour...
Pour rouler les boulettes.
Bien mélanger la base et puis les rouler. Ouais.
Mais finalement, la viande hachée, c'est un peu comme le poulet, tout le monde aime.
Ça marche à tous les coups, ça se décline de plein de façons.
Il n'y a pas de... toujours gagnant.
C'est ça.
Alors, ce qui est bien, c'est que, je vous le dis, hein, vous avez donné la bonne recette de pâte à la carbonara, parce que sinon, Manuel Mariani allait se...
Faire un scandale.
Ah oui.
Parce que c'est son combat, le combat de sa vie.
Ah oui, absolument.
Dans la carbo, il y a tout ce qu'il faut, mais il n'y a surtout pas...
De crème fraîche. Jamais de crème fraîche.
Bah, moi, j'en mets pas non plus. J'essaye de. Après, je sais pas ce que ça veut dire être puriste en cuisine. Il y a un livre pas mal d'un auteur, d'un chef italien qui s'appelle Tommaso Melilli, qui parle assez bien de. Ça s'appelle Spaghetti Wars. Et il parle assez bien de la carbonara en parlant des origines de la carbonara, en disant que c'était un plat de la banlieue de Rome et que dans sa version originale, on n'aurait peut-être pas envie d'en manger parce que ce serait vraiment du gras. Un truc, un plat en fait assez...
C'est assez gras, très poivré, un peu ouais, comme les cacio et pépé. Là, les
c'est
pépé,
ça. Ouais. Et bon, après, comme je vais souvent en Normandie, la tentation de la crème...
Ah, c'est le berceau de la carbonara, la Normandie.
C'est quand même très forte. Et puis, bon, je me dis qu'après tout, les recettes sont aussi faites pour... c'est bien de connaître leur histoire et leur origine et de les respecter, de savoir d'où ça sort, mais je pense que
ce qui me pose problème, au-delà du fait d'être puriste ou plus royaliste que le roi, ce qui me pose problème, moi, dans les carbonara avec la crème fraîche, c'est que déjà, il y a de la poitrine fumée qui est grasse, quand on rajoute en plus la crème par-dessus, c'est quand même super riche et c'est pas très agréable à manger déjà et surtout à digérer quoi parce que
tout dépend de c'est un dosage tout dépend du type de poitrine fumée qu'on utilise parce que je crois dans la recette ce qu'on dit il y a de la recette originale c'est plutôt du guanciale du gras de joue de porc donc pour le coup c'est presque que du blanc en fait il y a pas de viande. Alors que nous, ce qu'on trouve, c'est souvent plus, il y a plus de rose, quoi. Et donc, bon, on se dira, j'ajoute une cuillère de crème pour créer ce liant. Bon, enfin, moi, je préfère le sang parce que je préfère l'émulsion avec l'œuf et le gras de animal. Mais bon, voilà. Après, peut-être qu'il faut appeler ça autrement et puis faire évoluer la recette si on l'a fait avec de la crème.
Bon, en tous les cas, nous validons la recette de carbonara de Kenna Black dans son livre « Je cuisine pour mes petits-enfants ». La recette originelle est respectée. Non, mais c'est vrai qu'on en a très souvent parlé ici, notamment avec le grand défenseur de la vraie recette de la carbonara, Denis Imbrosi, qui est souvent venu nous voir. Et qui, lui, je crois, a été un des premiers à réhabiliter la recette originale. Parce que c'est vrai qu'il y a encore 10 ans ou 15 ans, tous les chefs de restaurants italiens mettaient de la crème fraîche. Alors, il y a une raison à ça quand même. C'est que si on prépare la sauce carbonara à l'avance, comme c'est le cas dans les restaurants, si on met pas de crème, elle tient pas quoi. Enfin, je veux dire, elle dessèche, etc. Mais bon, la carbonara, ça se fait minute, hein, donc de toute façon.
C'est pour
donc,
ça que la cuisine, c'est un très bon exemple de recette qui se fait dans le temps, dans le temps de cuisson des pâtes. Donc c'est une recette à faire à la maison, c'est une recette de famille, de grand-mère ou de ce qu'on veut, mais. Ça marche finalement peut-être beaucoup mieux que dans les restaurants. Et puis après, je pense que ce qui est peut-être plus important que les ingrédients, c'est de comprendre le principe de la recette, ce qui fait que c'est une sauce, ce qui fait que c'est bon, et de comprendre ça. Et puis c'est peut-être ça l'enjeu de... Je pense que dans la transmission, c'est peut-être ça, c'est plus que dire « Ah, tu vas mettre ça, 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 ça ». C'est comprendre ce qui...
C'est de la chimie, c'est de la chimie un peu la cuisine.
C'est comme la mayonnaise, quoi.
C'est une émulsion, oui.
On ne fait pas de mayonnaise si on n'a pas compris ce qui doit se passer chimiquement et physiquement sous le fouet.
Donc nous recevons Hervé Tis aujourd'hui. Mais je sais plus ce que je voulais dire. C'était en rapport avec les pâtes, je pense. C'est pas grave, ça me reviendra.
Est-ce que ça va vous revenir pendant la pub, Manu ?
Peut-être.
Est-ce que vous pensez que vous êtes suffisamment en forme pour pouvoir avoir un regain d'idées. Alors, je rappelle que dans un instant, si vous avez participé au concours de la semaine dernière, eh bien, vous allez repartir, Manu.
Avec une box foie gras. Hein. Il y a 5 foie gras différents. Piment d'Espelette. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre, Philippe, comme parfum ?
Il y a oignon,
oignon confit avec des inserts. Hein, voilà, dattes, figues.
Figues, dattes.
Voilà, par le chef Julien Durand. Alias Maître Foie Gras.
Donc, si vous avez joué et participé au concours sur l'Instagram de Manuel Mariani, ben c'est peut-être vous qui serez tiré au sort tout à l'heure et qui repartirez.
Voilà, de justesse avec Maître Bouali.
Voilà. Racontez-nous un petit peu les recettes de vos grands-mères. Qu'est-ce qu'elles font de particulier? Qu'est-ce qu'elles faisaient de particulier? Et vous, si vous êtes une grand-mère, qu'est-ce que vous faites à vos petits-enfants? 01 53 48 3000. Vous avez levé le doigt, Manu.
Oui, absolument. Restez avec nous parce qu'en plus, le livre de Kenna Black, vous allez pouvoir le gagner tout à l'heure.
Oh, c'est Noël avant Noël, Manu.
Eh oui,
ah, vous êtes trop généreux.
Vous allez pouvoir participer pour gagner
voilà,
la semaine prochaine.
J'ai cru que vous aviez rajouté que c'était un petit peu une
forme attends, un peu de suspense.
Monsieur Plus, comme on disait à l'époque.
C'est ça.
Allez, dessus de table jusqu'à 13h, ce Beurre FM.
Dessus de table revient dans un instant. Midi 13h, dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Beurre FM.
Alors, on parle de la cuisine des grands-mères ce matin, mais ce sont des grands-mères nouvelle génération, Manu. Hein.
Ah oui, des grands-mères connectées déjà, elles ont accès à Internet.
Elles font du chili.
Elles ont des tablettes.
Elles cuisinent les onigiri.
Onigiri.
C'est quoi des onigiri?
Ce sont c'est une sorte de snack japonais qui est fait avec du riz, le riz japonais. Donc
j'appelle ça un pancake d'algues pour essayer de l'expliquer.
Qui colle, dans lequel qu'on fourre de ce qu'on veut en fait, d'œuf, de thon, de porc, de ce qu'on veut, et puis on le referme et on met une algue autour. Et ça vient.
C'est un sushi alors.
C'est le même type de riz que le sushi, sauf qu'il n'est pas assaisonné normalement. Enfin, il peut l'être un tout petit peu. Et puis, c'est vraiment à emporter. C'est ce qu'on peut trouver dans des boîtes, le bento, la boîte qu'on
emmène. Street food japonais.
Et si l'on l'a inclus là, c'est toute cette culture. C'est Miyazaki, c'est les dessins animés, c'est les onigiri de Chihiro, etc. C'est parce que les
gamins
de cette génération c'est des choses qu'ils connaissent par ces films. Et puis,
puisque vous parlez de Chihiro, on en profite pour saluer notre ami Chihiro Masui qui nous écoute peut-être.
C'est vrai, Chihiro célèbre une autre.
Donc, si vous voulez être bien vu par vos petits-enfants, mettez-vous aux onigiri.
C'est ça, être bien vu ou je sais pas, prolonger le plaisir de la séance de cinéma.
Moi, dans votre livre, ce que j'aime, moi, je suis plutôt classique, hein. J'aime bien vraiment les classiques. Classique, c'est poulet puré, vous voyez. Mais avec le goût de la grand-mère.
Ah, ben ça, le goût de la grand-mère, il n'y a que la grand-mère.
La grand-mère qui peut le faire,
Le grand-père, mais bon, je sais pas, moi, je trouve que d'avoir quelques explications, ça peut toujours aider.
Ouais. Mais au-delà du tour de main de la grand-mère, il y a le fait aussi que. Avant, quand on allait chez le boucher, on avait des vrais poulets fermiers, la grand-mère le vidait elle-même, etc. Maintenant, c'est un peu des trucs industriels, Philippe.
Vous le mettez dans votre livre, hein, le poulet fermier.
Il y a le produit, oui, frites, parce que quand même, on trouve, alors même sans aller jusqu'à avoir à plumer ou vider son poulet, on trouve des... enfin, ça a un coût, c'est sûr, c'est pas toujours accessible, c'est sûr que faire un poulet rôti, ça vaut le coup.
Oui, puis on sait pas l'idée. Si on perche la poche de fiel, le poulet il est foutu, donc c'est pas terrible.
Mais bon, ça, le boucher peut s'en charger quand même, et on peut trouver de bons poulets fermiers élevés qui ont couru, etc., et qui n'ont pas été élevés en batterie, ce qui est quand même un peu dommage.
C'est quoi le secret d'un bon poulet rôti?
Alors,
pour que la peau soit bien croustillante, mais la chair juteuse.
Donc déjà, un bon poulet, enfin, ça, c'est quand même déterminant, parce que si le poulet n'est pas top, le goût, ce sera difficile de rendre ça bon. Et puis ensuite, dans la cuisson, alors, il y a l'arroser, pensez à l'arroser, parce que, il rend son propre jus. Alors, ce qui est bien, c'est toujours de le mettre dans un plat, enfin, selon moi, un plat, pas trop grand.
Ouais, c'est ça,
trop de place. Pour que les sucres, les jus qui coulent ne se dessèchent pas, parce que s'ils sont trop étalés, ils se dessèchent. Et puis, de temps en temps, pensez à l'arroser avec une cuillère, avec ce jus. Et puis, l'astuce qui consiste à lui faire démarrer la cuisson, en fait, à l'envers, enfin, pas sous la forme dont on a l'habitude.
Sur le ventre.
Voilà, ou même sur le côté et puis le tourner d'un quart de tour.
En PLS.
Oui, c'est ça, en PLS. d'un quart de tour au bout de 20 minutes, il fait faire le tour du cadran et puis finir sur le dos normal pour que le dessus soit bien gonflé et bien doré. Ça marche assez bien.
Ouais, c'est
et
vrai
puis
que...
aussi pardon. Une autre c'est pas mal la veille de le sortir
le salé,
le frotter au sel, le remettre dans son papier et la nuit au frigo.
Et expliquer, ça commence la veille. Ouais.
Et ça, on n'y pense pas toujours. Moi, souvent j'oublie, mais si on y pense, c'est pas mal.
Et bon, évidemment, quand on le cuit comme ça, on a un bon jus bien concentré.
Une peau
pour aller dans la purée, évidemment.
Ouais. Moi, j'appelais ça. Ma grand-mère faisait ça. J'appelais ça La peau, j'appelais ça la couverture et ça s'appelait le poulet à la couverture.
D'accord, le poulet à la couverture. Ouais. Mais enfin, moi,
avec les frites.
Moi, j'aime bien quand même le poulet avec le riz parce que le jus, le en fait, je fais presque comme un pilaf, quoi, mais avec le jus du poulet. Et ça, c'est bon quand même.
Donc, ça, vous préférez, vous êtes plus riz, Manu, que...
Non, j'aime bien les deux. J'aime bien les deux,
mais... Frites ou purée.
J'aime bien les deux, mais c'est vrai que préparer un petit pilaf avec le jus du jus du poulet pendant que le poulet finit de cuire, on fait un petit pilaf. Puis il y a des recettes aussi dans ce genre-là. On parlait de riz au gras, ce qu'on appelait le riz au gras, c'était un pilaf qui était cuit dans un qui était cuit avec un jus de poulet ou de bœuf, etc. qu'on faisait retirer par ailleurs.
Bon, je crois que Maître Boily est installé, la roue est installée également. C'est peut-être vous, peut-être une minute, qui gagnerez cette box foie gras, Manu.
Alors, ouais, alors attendez, parce que je ne suis pas prêt du tout.
C'est
Philippe.
Pas vrai. Alors Maître Boily est au taquet et vous êtes en train de sortir les boules, c'est ça?
Ouais, mais alors déjà, ce que je peux vous dire, c'est que vous allez pouvoir gagner le livre de Keda Black, hein, donc à partir de 14h. Vous allez sur mon Instagram, mariani.manuel. Comme ça se prononce. Hein. Et puis vous vous laissez guider et vous pourrez gagner donc le livre de Keda Black. Hein.
Donc là vous êtes en train de gagner du temps, Manu, parce que je vois bien ce que vous êtes en train de faire. C'est-à-dire que nous on est là en train de dire mais qui va gagner la boxe foie gras et là vous nous faites languir.
Exactement, Philippe.
Bon, alors.
Alors, est-ce que vous avez participé d'ailleurs, Philippe? Vous avez joué vous?
Non, j'ai pas joué. J'ai pas Instagram. Faudra m'expliquer comment ça fonctionne un jour, mais.
Vous n'avez pas Instagram. Si vous avez un compte Instagram, c'est moi qui voulais vous voir, Philippe.
Oui, mais je sais pas, vous m'avez pas expliqué comment ça fonctionnait. Alors donc, j'ai le compte, mais je sais pas comment ça fonctionne.
Bah allez, Maître Boily va lancer la roue.
Allez, Maître Boily, on y va. Il est suspense quand même, la mine d'or.
Ah, il y a beaucoup de suspense.
Oui.
Il fait ça bien, notre huissier de justesse, hein, ouais. Maître Boily. Alors, le gagnant s'appelle Walter Pierre. Bravo à lui. Bravo à lui. Alors,
Walter Pierre Schkoun.
Alors, je ne sais pas.
C'est son pseudonyme.
Instagram.
Ouais,
Non, mais vous, Philippe, vous voulez toujours que les gens, sur les réseaux sociaux, aient un nom, un prénom, non?
Ah non, les gens s'appellent. Sur les réseaux, on ne s'appelle pas par son prénom et son nom.
Bah écoutez, si, on a peut-être.
Walter Pierre, bon, d'accord.
Non, mais voilà, Walter
pas d'indication, donc c'est lui qui a gagné, en tout cas.
Voilà. Walter Pierre.
Trop de chance, parce que c'est un super foie gras, donc.
Ah ouais, ça y a cinq foie gras différents. Les petits pots de condiments, hein, au choix d'ailleurs, hein, que vous pourrez choisir. Et puis le pain du boulanger qui fait la meilleure baguette de 2021.
Cette année, ouais. Il est dans le Val-de-Marne. D'ailleurs, on pourra voir le chef Julien Durand. Il est au marché demain.
Eh ouais, absolument. Demain matin, vous le trouvez au marché d'Alfortville, Julien Durand. Vous pourrez aller. Vous aurez un mètre de foie gras sous les yeux et là son stand au marché d'Alfortville. Et c'est vrai que vous pouvez y aller les yeux fermés parce que c'est vrai que le foie gras de Julien Durand est absolument délicieux.
Bien, je cuisine pour mes petits-enfants. C'est le livre que vous pourrez gagner la semaine prochaine et dont on parle aujourd'hui. Moi, ce qui m'a replongé dans l'enfance, par exemple, c'est des choses très très simples. C'est par exemple le rouler à la confiture, franchement.
Ah oui, ça c'est un grand classique.
On l'avait oublié, mais je peux vous dire qu'à 4 heures, c'est magnifique. Hein.
Oui.
Un petit roulé. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de déclinaisons, les tartes aux pommes, aux poires.
Bah, ça aussi, c'est bien.
Ouais. Mmh. Bon, les gâteaux choco-banane.
Ah oui, choco-banane, c'est bien ça.
Ça, c'est bien.
Bah, c'est une sorte de cake, enfin, c'est une sorte de banane à bread, mais ça permet d'utiliser les bananes. Un peu mûr, qui vont noircir. Et avec la touche de chocolat, c'est pas mal, oui.
Ouais, mais ce qui est sympa dans votre livre, c'est que souvent, quand on fait des livres de cuisine à destination des enfants, directement ou indirectement, c'est qu'il n'y a pratiquement que du sucré. Alors que vous, il y a quand même un bon équilibre entre le salé et le sucré.
Oui, il faut le goûter et puis il faut les repas, les vrais repas.
Et il y a de quoi faire absolument tous les repas, oui.
Voilà, et puis surtout, si vous manquez d'idées pour faire manger des légumes à vos petits-enfants et à vos enfants, c'est aussi la bonne chose, la bonne astuce. Hein.
Mais oui, il y a quelque chose. Après, les enfants ne sont pas tous... Il y a certains qui aiment les poireaux, d'autres les potirons, d'autres les épinards. Hein, c'est pas uniforme.
On mange ce qu'il y a, voilà, c'est ça.
C'est ça.
Alors demain, je vous donne rendez-vous entre midi et 13h pour le Book Club avec Eric Emmanuel Schmitt qui sera là avec nous. Donc demain, Manu, la semaine prochaine, on parlera de riz. Je sais pas, c'est pas vous qui m'avez dit que vous vouliez faire du riz ?
Pourquoi pas, oui. Bah tiens, on fera de la paella, voilà.
Ah ouais, on a envie de paella là, hein. Ça c'est vraiment...
Ah ouais, ouais, c'est bien ça, la paella.
Une adresse à Paris pour manger de la paella ou il n'y en a plus ?
Alors, il y a, on peut l'acheter dans l'épicerie d'Alberto Herraiz, qui avait un très bon restaurant qui s'appelait le Fogon, mais qu'il a fermé. Là, maintenant, il a une épicerie rue du Verneuil qui s'appelle Fogon Ultramarinos. Et donc, on peut aller acheter sa paella, bien de là-bas, à emporter. Et puis, il y a une adresse, dans le 12e. Je vais essayer de vous la trouver avant la fin de l'émission, là, tout de suite. Voilà.
Ça se passe en direct, hein, vous remarquez.
Bah oui, mais voilà. Attendez, vous m'avez pris au dépourvu, Philippe.
C'est vrai, mais j'ai cru que vous étiez un ordinateur, Manu, que vous saviez ça comme ça de mémoire.
Ben, je ne sais plus le nom de la rue, mais je sais y aller, vous voyez.
Bon, comment ça s'appelle ? Simplement donner l'adresse.
Ah ben, je
ne me rappelle pas le nom du restaurant.
Ça s'appelle la Feria. La Feria, et c'est 25 rue Montgallet, dans le 12e.
Il a relevé le défi. Merci d'avoir été avec nous, Keda. Merci.
Bah, merci à vous.
Manu, à la semaine prochaine. Passez un bon week-end sur Beurre FM.
Retrouvez Dessus de Table tous les samedis de midi à 13h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.